tous. Voilà, je pense que le micro marche, que vous entendez. Encore un moment où il fait chaud et où j'espère la parole du Seigneur pourra nous rafraîchir. J'espère bien. Eh bien. Je vous invite à prier avec moi pour que nous le lui demandions. Oui, notre Père, en effet, ta présence peut nous réchauffer, réchauffer le cœur, mais aussi nous rafraîchir. Et parfois, nous avons bien besoin de faire revenir des choses à notre esprit. C'est un moment, c'est un privilège que ce moment que nous passons ensemble, que nous te demandons de bénir. Au nom de ton Fils. Amen. Donc, le texte sur lequel je m'arrête ce matin se trouve dans le deuxième livre des rois, dans l'Ancien Testament, au chapitre 5. Voilà, qui ne tardera pas à être affiché, non? Voilà, c'est ça. Alors, je lis ça, je lis ce texte jusqu'au verset 19. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Et lors d'une expédition des troupes araméennes, avait ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, « La jeune fille d'Israël apparaît de telle et de telle manière. » Alors le roi d'Aram dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Mais suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Constatez, je vous prie, il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée, le prophète. Élisée envoya un messager lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman s'irrita. Il s'en alla en disant, je me disais, il sortira, il se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, s'il te dit, lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur, au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors, Naaman dit, « Dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi, ton serviteur, de la terre, la charge de deux mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Que le Seigneur me pardonne cependant ceci. Comme mon Seigneur, là il parle de son roi, hein, qu'il désigne par son Seigneur, quand mon Seigneur se rend à la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Alors, il le quitta. Voilà. Naaman est un homme important. C'est le chef de l'armée, un héros bien vu de son roi, puisqu'il a conduit le pays d'Aram vers la victoire. Aram, c'est le nom de ce pays où l'on parlait araméen, hein, une langue qui était très proche de l'hébreu, c'est la langue dans laquelle Jésus parlait. En fait, Aram, à ce moment-là, c'est un autre nom pour désigner la Syrie, hein, même si aujourd'hui les frontières ne sont pas tout à fait les mêmes. Naaman a tout obtenu dans sa vie. La victoire, la richesse, l'admiration, les honneurs, tout, à ceci près qu'il est lépreux. Alors, est-ce que c'était vraiment de la lèpre? Puisqu'à l'époque, les maladies de la peau étaient facilement assimilées à la lèpre. Mais peu importe, c'est quand même, de toute manière, une épreuve terrible. Parce que souvent contagieuses, les maladies de la peau faisaient très peur. Et c'était donc un défi permanent à tous les privilèges que Naaman pouvait avoir. Donc, il est fort, il est riche, puissant, estimé par son roi, mais intouchable, infréquentable, et peut-être pas très beau à voir. Ironie du sort, le nom qu'il porte, Naaman, vient d'un verbe qui, en hébreu, veut dire plaire, être agréable, et même quelquefois être beau. Alors, c'est dur à porter dans ces conditions. Heureusement, l'histoire finit bien, hein, et même, je dirais qu'elle finit mieux que bien, car dans cette histoire, il y a une autre histoire qui est racontée, celle de la manière dont le chef des armées a pu trouver la paix. Et on s'en rend compte, très vite, il a progressé rapidement dans la connaissance du Dieu d'Israël, hein, parce que c'est au départ, c'est bien lui, l'étranger, le païen, le guerrier, qui à la fin va dire haut et fort, il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Quelle était sa connaissance de la loi de Moïse? On n'en sait trop rien, mais au départ, quand même, c'était un païen. Un païen qui finalement a compris l'essentiel de la foi en Dieu. D'où sa gêne de devoir rester auprès de son roi dans le temple d'une divinité païenne. Il a fait du chemin. L'histoire finit bien. Notre personnage retrouvera la santé et bien plus encore. Mais avant d'en arriver là, eh bien, il va devoir suivre un parcours plein de surprises. Et c'est sur ce parcours que je veux m'arrêter ce matin. Alors, au départ, très administratif, Naaman passe par la voie hiérarchique, le roi d'Aram, son roi qui, à son tour, l'oriente vers celui d'Israël, avec le succès que l'on connaît. Administratif, et puis c'est un militaire qui a l'habitude de donner des ordres, et il entend que ça se passe comme il l'ordonne. Et en plus, son train de vie de chef de l'armée le confirme dans son caractère. Il attend des actes forts, retentissants. Et puis, il fait partie de la classe des puissants, des VIP. Il se déplace avec ses chevaux, avec son char et toute son escorte, ses vêtements de fête, des talents d'argent, des milliers de pièces d'or, etc., avec la missive officielle de son roi. Là, il y a de quoi impressionner beaucoup de monde. Donc, Naaman est imbu de sa personne, avec ses 10 vêtements de fête qu'il emporte avec lui. Ça ne doit pas passer inaperçu. Et puis, il est également sûr de son savoir. Il sait. Pour lui, la guérison doit passer par un acte bien visible. Il sait mieux que les autres comment les choses doivent se dérouler. Le prophète devra agiter sa main sur l'endroit malade. Le prophète devra faire ce qu'il faut, comme il faut, c'est-à-dire comme Naaman le conçoit. Eh bien, malheureusement, lorsqu'il arrive devant la maison d'Élisée, le prophète ne daigne même pas sortir de sa maison. Le prophète ne l'accueille pas chez lui, alors qu'il vient de faire long voyage. Alors il est accueilli, mais par un serviteur. Consternation. Et pourquoi aller se tremper dans le Jourdain? Est-ce qu'il avait fait tout ce trajet pour ça? Eh bien, il ne lui reste plus qu'à bouder. Et pourtant, c'est justement à partir de ce moment-là que quelque chose va changer. Il va être obligé d'être attentif aux autres. Alors, ça avait déjà commencé un peu avant, avec cette petite fille esclave étrangère, qui d'ailleurs dans le récit n'avait même pas de nom. Une manière de souligner que son statut ne comptait pas pour grand-chose. Il y a eu aussi la femme de Naaman. Donc, bien sûr, le statut était meilleur que celui de la petite esclave. Mais dont la condition de femme n'était pas celle d'égalité avec lui. Et ça continue. Toutes ces personnes, tous ces autres, après avoir pris contact avec les plus puissants, après être arrivés jusque chez un grand prophète, après avoir manifesté une certaine foi, quand même, on peut le dire, le chef des armées syriennes va devoir écouter des personnes dont il ne s'attendait pas à dépendre. Au lieu du grand prophète guérisseur, qui devrait se manifester avec beaucoup d'effets de manche, c'est un simple serviteur qui sort de la maison pour lui dire ce qu'il doit faire. Quant aux autres personnages qui ont un rôle à jouer, ce sont encore des serviteurs, ceux de Naaman. C'est là qu'on se rend compte que le plus puissant sera délivré par les plus petits. Le plus puissant devra accepter les conseils de ses inférieurs hiérarchiques, qui insistent sur la simplicité de ce qui est demandé. Autre surprise pour Naaman, au lieu de tout un protocole ostentatoire, compliqué, Élisée l'invite à se tremper simplement dans l'eau du Jourdain, sans autre forme de procès. Et même littéralement, hein, dans les mots, le verbe c'est se laver, comme on se lave dans la salle de bain. La mention, il y a le vocabulaire, c'est pas un vocabulaire religieux. Et même la mention peut-être des 7 fois, ça peut peut-être correspondre à un rite particulier, mais ça n'a rien à voir avec les choses difficiles que les rites orientaux pouvaient demander. Et le prophète qui n'est même pas là. C'est vrai que plus il y en a à faire, plus c'est rassurant. C'est cette tentation qu'on peut connaître de penser qu'il faut en faire plus pour être sûr d'obtenir quelque chose de Dieu, pour le faire céder. C'est comme quand on est chez le médecin, on peut avoir du mal à sortir de chez lui sans une ordonnance entre ses mains. Eh bien, le plus puissant devra accepter ce chemin d'humilité. Quelque chose de difficile pour un chef des armées. Mais c'est le chemin de la foi. Difficile aussi pour ces personnages de second rang, hein, les serviteurs de Naaman. Tous ceux qui ont dû surmonter leur gêne à parler devant leurs supérieurs, ou même leur peur, ou encore pour la petite esclave, de surmonter cette rancune, peut-être qu'elle avait, d'avoir été prise comme esclave, surmonter une rancune de gens dominés. Il n'empêche que chacun dans cette histoire, chacun a dû tenir son rôle pour que la guérison de Naaman soit effective. Et on peut dire, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de maillon manquant dans la chaîne. Alors, selon l'histoire d'une intervention de Dieu, dans laquelle les uns et les autres ont vu combien les choses se sont passées, à l'opposé, à l'inverse de tout ce que l'on pouvait penser. Alors, je voudrais donc à présent revenir sur ces préjugés qui peuvent nous paralyser à notre tour. vu du côté du personnage important. Les serviteurs, les subalternes, peuvent-ils avoir raison devant le chef, devant le général des armées? Est-ce qu'on peut écouter une petite esclave qui, de surcroît, est étrangère? Alors pour nous, les moins brillants, les moins bruyants, auraient-ils moins raison que les autres? Autre préjugé, est-ce que Dieu attend de nous forcément des choses difficiles ou compliquées? Est-ce qu'il faut faire, est-ce que vraiment il faut faire plus d'efforts pour être entendu de lui? Eh bien, je ne vais pas répondre, mais c'est des questions à se poser régulièrement. Vu du côté des serviteurs, est-ce que nous sommes trop petits pour intervenir auprès des plus importants, auprès des plus puissants, auprès de ceux qui nous impressionnent? Eh bien, justement, dans cette histoire, le dessein de Dieu passe souvent par les plus petits. Alors, si nous nous estimons trop faibles pour jouer notre rôle, eh bien, justement, nous n'avons pas à nous décourager. Et j'irai aussi un peu plus loin avec une autre chose que je remarque. J'ajouterai que dans notre histoire, le chemin qui va vers la paix, ce n'est pas un chemin solitaire. Si Naaman a pu revenir chez lui guéri et en paix, c'est grâce à de nombreuses interventions qui, chacune à son tour, ont joué leur rôle. Je crois que nous risquons parfois de perdre de vue que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de mille et un événements qui ont marqué notre vie, parfois même depuis notre petite enfance. C'est parfois peut-être grâce à l'aide ponctuelle mais indispensable d'une ou plusieurs personnes à tel moment de notre vie, même si nous les avons oubliées. Justement, cette histoire est aussi un encouragement à ne pas chercher à cheminer tout seul. Dieu place sur notre chemin des personnes qui peuvent contribuer à nos progrès, à nos délivrances. Et parfois des personnes qui, comme pour le cas des serviteurs de Naaman, ne partagent pas le même avis, ou en tout cas donnent un avis différent. Je crois qu'on peut dire que l'unité de l'Église ne se tient pas seulement dans la chaleur de l'accueil des plus proches, elle se trouve aussi dans la diversité, parfois dans l'écoute des autres. Justement, Naaman n'a progressé qu'en écoutant des avis différents du sien. Enfin, si chacun doit forcément cheminer pour soi-même, bien sûr, il doit aussi cheminer pour les autres, surtout dans l'Église. Quel maillon de la chaîne sommes-nous dans le cheminement des autres? Chaque maillon est important pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu parmi nous. Et ainsi, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Notre fidélité aux activités de l'Église nous profite, nous. Mais même si elle est très très modeste, elle profite aux autres. Alors nous pouvons être des Naamans, nous pouvons être des serviteurs plus humbles, avec peut-être moins ou très peu de capacités, mais plus utiles qu'il n'y paraît. On raconte l'histoire d'un jardinier, peut-être vous l'avez déjà entendu raconter, c'est l'histoire d'un jardinier qui, pour arroser ses fleurs, se servait d'un vieil arrosoir dont le fond était rouillé et perdait de l'eau lorsqu'il passait sur le chemin. Alors tout le monde, tous ses amis lui disaient, mais il faut en acheter un autre. Eh bien, lui ne voulait pas. Jusqu'au jour où ses amis, bien intentionnés, lui en ont offert un de tout neuf. Il était obligé de l'utiliser, bien sûr. Alors il a changé. Mais du coup, les petites fleurs sauvages qui poussaient le long du chemin n'ont plus été arrosées. Elles ont séché. Alors même un vieil arrosoir, tout rouillé peut être utile. Alors, nous ne sommes pas des arrosoirs tout rouillés, j'espère. Alors que Dieu nous permette d'apprendre à recevoir des autres et à donner aux autres. Je crois que c'est une condition importante pour persévérer ensemble. Que le Seigneur nous y conduise. Amen. Je vous invite à un moment de recueillement dans le silence. Nous comptons sur ta paix, nous comptons sur ta force, nous comptons sur ton écoute. Oui, nous savons que tu nous entends. Nous qui sommes si imparfaits, nous qui aimerions que tout se passe selon nos désirs, nos aspirations. Donne-nous de savoir t'écouter. Il y a mille et une manières pour toi de nous atteindre. Rends-nous réceptifs à ta parole. Amen.